Alcoolique anonyme, en sortir ensemble. C'est la deuxième émission des Alcooliques anonymes de Haute-Normandie. Et aujourd'hui, pour en parler, Véronique, bonjour.
Bonjour, bonjour Henri, Véronique.
Bonjour Alain.
Bonjour voilà. Alain, alcoolique.
Nous allons évoquer un petit peu le parcours des Alcooliques anonymes, en sortir ensemble. Tout commence par le jour où on se sent seul, désespéré. C'est sans doute la première étape que je lis d'ailleurs dans les documents des Alcooliques anonymes. Nous avons admis, chacun peut dire ça à son compte, j'ai admis que j'étais impuissant devant l'alcool, que j'avais perdu la maîtrise de ma vie. Seul, désespéré. Ça veut dire quoi, Bernard? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
C'est tout simplement le... Moi, j'ai commencé à boire parce que j'avais peur. Et puis, quotidiennement, j'ai trouvé une solution. J'avais moins peur. J'avais confiance dans les gens. J'étais plus à l'aise. Et puis, quotidiennement, il me fallait boire. Et puis, j'ai pas vu le danger venir jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir de plus en plus de mal à dormir, de plus en plus d'ivresse. Et donc, des retards à mon travail. Je me suis fait virer de mon boulot. J'ai augmenté les doses d'alcool. Et puis, j'ai pas vraiment vu la frontière de se boire beaucoup à boire au quotidien.
On ne se sent pas dégringolé?
Ben non, parce que c'est un piège qu'on voit pas, parce que ce qui se passe dans un premier temps, c'est qu'on ma situation de stable, de travail, de vie relationnelle se dégrade, et moi j'ai commencé à côtoyer des gens qui buvaient, et j'ai un petit peu mis de côté les gens qui avaient une vie normale, qui n'avaient pas recours à l'alcool. Et puis ça m'a valu d'abord, dans un premier temps, des étapes de soins. J'ai été interné parce que à une ou deux reprises, en état d'ivresse, j'étais assez violent, assez caractériel, et donc j'ai été hospitalisé. On a évoqué un petit peu mes problèmes d'alcool, mais on m'a pas dit que ne fallait pas boire. Donc, je suis ressorti avec des traitements. J'ai continué à boire.
On ne m'a pas dit. Qui aurait dû parler?
Je pense que c'est... On m'a dit de diminuer l'alcool, mais dans les médecins ou j'étais en HP, donc les psychiatres, m'ont prescrit des médicaments pour les nerfs, parce que c'est vrai que j'étais aussi quelqu'un de nerveux, mais on ne m'a pas précisément dit, ou j'ai pas voulu l'entendre, peut-être que c'est ça aussi, que il ne fallait pas boire d'alcool. Donc je suis sorti, rapidement, je me souviens bien avoir tenté de diminuer l'alcool, mais en quelque temps, j'ai repris les quantités que j'avais laissées avant mon hospitalisation. J'ai été hospitalisé assez longtemps. Donc, en continuant à boire, j'ai connu d'autres difficultés qui m'ont valu à la fois des internements, des emprisonnements. Et à ce moment-là seulement, il y avait un groupe d'alcooliques anonymes. J'ai été invité par une dame à me présenter au groupe des arts.
Oui, Véronique, vous êtes spécialement chargée de la communication un peu pour les alcooliques de Haute-Normandie. Est-ce que le parcours qu'évoque Alain, c'est un parcours typique ou c'est très différent? Il y a toutes sortes de parcours. C'est pas toujours aussi dramatique quand même.
Alain, il a une particularité, c'est qu'il a arrêté de boire très jeune. Et quand tu as arrêté de boire, quand il a fallu que tu admettes que tu étais impuissant avec ça et qu'il fallait commencer par arrêter le produit, c'était 25 ans. Donc ça m'étonne pas vraiment que son entourage lui ait pas dit d'arrêter complètement l'alcool, parce que déjà c'est un bout de temps. Je dévoilerai pas ton âge aujourd'hui, mais tu le diras toi-même.
Non, mais on dit un jeune est autonome, il fait sa vie comme
voilà,
il l'entend.
Et
oui.
Puis ça fait partie de la jeunesse aussi de boire, hein, de faire la fête. Donc toi ça a été ça. Moi dans mon parcours, je me suis arrêtée de boire, j'avais 39 ans, c'était dans ma 40e année. On m'avait dit, il faut arrêter l'alcool. J'avais réussi, avec l'alcool, à perdre la vue, quand même.
Ouais.
Et pour retrouver la vue, ça a été à coup de perfusion, et ça a été, le neurologue m'avait dit, vous arrêtez l'alcool. Ah bah oui, c'est bien ça, mais comment ?
Alors, professionnellement parlant, ça n'avait pas coupé votre vie professionnelle.
J'avais pas repris ma vie professionnelle. J'ai sombré vraiment dans l'alcool au moment d'un divorce et j'avais pas repris mon activité. Donc j'avais essayé des tentatives, mais bien entendu, ça avait échoué. Non, ça avait des répercussions dans ma vie familiale. J'avais des enfants en bas âge, hein, donc j'essayais de surnager, d'être une mère normale. J'essayais, mais c'était épuisant, quoi. J'ai perdu la vue au passage. J'ai arrêté de boire pendant 3 mois, mais seul.
Un sursaut vital.
Oui, vital. Oui. Quand vous perdez la vue, j'y voyais rien. Hein. J'étais obligée de demander à mes enfants de bien vouloir me montrer où était la ligne du chéquier pour que je puisse faire les paiements. J'en étais là. Je mettais des lunettes noires pour sortir dehors. Parce que la luminosité me faisait mal, vraiment. Et donc, j'y voyais rien. Je voyais mes enfants, je distinguais leurs traits que quand ils étaient devant mon nez, quoi. Autrement, à distance, je ne voyais que la forme de leur corps et je reconnaissais, bien entendu, leur voix. 3 mois comme ça. 3 mois pour recouvrer la vue à coup de vitamines et à coup d'abstinence, mais abstinence seule. Si bien que, à la fin du 3e mois, un jour, quelqu'un m'a proposé de prendre, et c'était ni plus ni moins mon père qui était au courant du problème d'ailleurs, comme quoi l'entourage n'est pas toujours conscient de ce qu'il fait, de reprendre un demi-verre de rosé au cours d'un repas dehors où on faisait un barbecue.
Vous aviez arrêté depuis combien de temps déjà ?
3 mois.
Depuis 3 mois quand même,
ouais.
3 mois sans.
Ouais. Sans.
Toute seule.
Oh,
je suppose une bonne dose d'énergie quand même, oui ?
Oui, oui, ouais. De l'énergie comme vous dites, mais c'est fatigant. C'est fatigant. Et j'ai repris verre, j'ai repris demi-verre. Et puis le lendemain, c'était un autre demi-verre. Ensuite, ça a dû être 2-3 verres. Et voilà, j'ai été rechercher une bouteille. J'ai rechuté comme ça pendant 2 ans. Et c'est seulement au bout, en ayant touché le fond du fond, que j'ai bien voulu admettre. Et c'est là où on en revient à ce que vous disiez au début de l'émission, que peut-être... Il y avait un moyen d'arrêter de boire, parce que je ne pensais pas que c'était possible, c'est trop dur. Ça semble trop dur, insurmontable physiquement et moralement. Et je m'étais dit que peut-être... Alors, il y avait tout le contexte autour dans ma vie. Hein, il y avait le divorce, il y avait le malheur, bien entendu. Tout ça, c'était... j'avais des tas de raisons de boire, de continuer à boire. Mais ce jour-là, Dieu sait pourquoi, je me suis dit peut-être que si je commence... par arrêter de boire, peut-être que le reste va changer. Mais alors, commencer par arrêter de boire, là, pour le coup, je ne voulais pas le faire seule. J'étais bien incapable je savais déjà que j'étais bien incapable de tenir dans le temps. Donc, j'ai demandé de l'aide.
On va y revenir, Véronique, la façon dont vous avez cherché de l'aide. Alors, Alain, comment ça se passe au quotidien ? C'était quoi votre journée quotidienne ?
Alors, moi, je suis arrivé un samedi matin dans un groupe d'alcooliques anonymes que je ne connaissais
pas. D'abord, pendant que vous étiez en pleine période.
C'était pas
facile.
Quand j'avais un peu d'argent, c'était facile.
Oui.
Quand j'avais plus d'argent, ce qui était assez fréquent, les faufilades dans les supermarchés. Pour piquer des flashs, pour planquer des bouteilles, et me sortir, de temps en temps me faire avoir, me faire tabasser par les vigiles, c'était le quotidien. Et puis, toutes les dégradations qu'on peut vivre, les humiliations.
Quel âge vous aviez, là ?
Là, j'avais 23, 24 ans.
D'accord.
Ouais.
Vous aviez déjà travaillé,
oui,
vous, c'était fini, pratiquement.
Je ne travaillais plus. Les deux dernières années, je ne travaillais plus. C'est vraiment, je vivais... assez souvent dans ma voiture, d'autres fois sous des Porsche.
Et la famille, les amis,
ils étaient découragés. J'avais juste ma dernière sœur qui de temps en temps m'envoyait de l'argent, enfin ma sœur la plus jeune, mais mon frère aîné, mes parents, ils m'ont soutenu les deux, trois premières années. Parce que dès que j'ai rencontré, moi, l'alcool, c'était presque immédiat que j'ai eu des grosses consommations d'alcool. Dès l'âge de 20 ans, c'était des grosses consommations. Voilà, donc des problèmes d'argent réguliers, des problèmes de factures que ma mère réglait, voilà.
Quelle image de soi peut-on avoir dans ces moments-là?
J'ai une image extrêmement violente, je devais avoir 24 ans, j'ai déchiré ma carte d'identité parce que je voulais me suicider, mais je voulais pas qu'on sache qui c'était moi. Je voulais pas, et je me vois à la station Rome, près de Saint-Lazare, je me vois avoir déchiré ma carte d'identité. C'est un moment que je pense encore aujourd'hui, j'y pense de temps en temps parce que c'est vieux, c'est loin, mais j'ai eu ce moment de désespérance parce qu'il n'y avait pas de solution. Je faisais trop de mal autour de moi, que ce soit dans ma vie affective ou surtout dans ma famille, et surtout par rapport à ma mère qui était désespérée.
Et c'était « je ne vaux rien, je ne veux plus exister pour personne ».
Oui, enfin, voilà, c'est ça. Et surtout qu'on ne laisse plus de traces. Et ça, cet acte-là, je devais avoir à peu près presque 25 ans, puisqu'après j'ai été soigné, je suis rentré en soins, et avec l'idée de cette première réunion, où là, j'étais très en colère parce que quelqu'un racontait sa dépendance, qui était un peu mon histoire. Ça m'a un peu agacé. Et j'ai dit, mais moi, je ne suis pas comme eux. Et je suis sorti et j'ai commandé une bière. Mmh. Et au moment où j'ai bu ma bière, j'ai dit, mais je viens de dire. Et en fait, la première chose que je fais, je rebois.
Est-ce que je vais m'en sortir? Nous allons y revenir dans un instant dans cette deuxième émission Alcooliques Anonymes, En sortir ensemble. Et nous écoutons Renaud sur deux hommes, le Dr. Jekyll et le Mr. Hyde, qui y a peut-être un peu en chacun de nous finalement.
Comme il y a eu 15 bourgs et 15 parts, il y a le Renault et le Renard. Le Renault ne boit que de l'eau, le Renard carbure au Ricard. Un côté blanc, un côté noir, personne n'est tout moche ou tout beau. Moitié ange et moitié salaud, et c'est ce que nous allons voir. Docteur Renault, Mister Renard. Renard est un sacré soifard, Renaud est sobre comme un moineau. Quand Renaud rejoint son plumard, Renard s'écroule dans le caniveau. Renaud se méfie des pétards et du chichon qui rend idiot. Renard se les roule peinard pour s'exploser le ciboulot. Docteur Renaud, Mister Renard. Renaud s'efforce, c'est son boulot, d'écrire de jolies histoires, pour séduire les gens, les marmots, pour amuser, pour émouvoir. À la pointe de son stylo, le Renard n'a que les gros mots, la parano et le cafard lui inspirent que des idées noires. Docteur Renaud, Mister Renard. Docteur Renaud, Mister Renard. Renaud souffre de tous les maux qui accablent ce monde barbare. Il porte les croix sur son dos, des injustices les plus notoires. Renard désabusé se marre, se contrefou de ce bazar. Le monde peut crever bientôt, Renard s'en réjouirait plus tôt. Docteur Renaud, Mister Renard. A choisi la guitare et la poésie et les mots comme des armes un peu dérisoires pour fustiger tous les blaireaux. Renard, c'est son côté anard, crache sur tous les idéaux, se moque du tiers comme Lucard, des engagements les plus beaux. Docteur Renaud, Mister Renard.
Alcoolique, anonyme, En sortir ensemble, deuxième émission, Docteur Renaud, Mister Renard. Se foutait de tous les engagements. Nous en parlons de ce parcours du combattant avec Véronique, avec Alain des Alcooliques Anonymes de Haute-Normandie. Alors Alain, qu'est-ce qui se passe? Un beau jour quoi?
Bonjour, un matin de lucidité, un peu de courage. Donc là, on pousse la porte des alcooliques anonymes. Et puis...
Vous avez entendu parler ?
Oui, il y avait une dame qui m'avait conseillé, mais j'avais des représentations des alcooliques. Pour moi, les alcooliques, c'était les clochards, c'était les gens de la rue. C'était pas du tout... Et en fait, j'ai été très surpris de voir qu'il y avait des personnes...
Des gens très présentables, finalement.
Oui. Bon. Et j'étais un peu dérangé du mot « bonjour, je m'appelle un tel, je suis malade alcoolique ». Et en fait, c'est vraiment... je me retrouvais, malgré tout, c'était parce que c'était trop fort, il y avait trop de vérité ce jour-là, mais c'est quand même ça. Je suis malade de l'alcool. Je suis malade d'alcool. Et les alcooliques ont une définition ils ont lu un texte. La maladie alcoolique, c'est une allergie physique à l'alcool doublée d'une obsession. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a immédiatement plu, parce que c'était vrai. C'est-à-dire qu'il y avait probablement cette allergie et il y avait ce côté obsessionnel. C'est-à-dire que j'en avais jamais assez. Il fallait toujours aller, quand je buvais, je devais aller toujours jusqu'au bout, en boire davantage, jusqu'au cas où.
Vous parlez d'allergie, Véronique, là. Les médecins admettent que tout le monde ne serait pas sensible à l'alcool. Une allergie, si certains organismes seraient plus sensibles à l'alcool.
Oui, alors je voudrais pas me mettre à la place des médecins, mais effectivement, depuis un certain nombre d'années, au moins une dizaine d'années, puisque notre présidente précédente, qui était le docteur Isabelle Sokolov, disait de la maladie alcoolique qu'il faut trois facteurs. Alors je répète tout simplement ce qu'elle disait à l'époque. Il y a un aspect de génétique. Hein, on est porteur d'un gène alcoolique. C'est souvent parce que dans notre famille, il y a eu des alcooliques.
On serait
porteur. Il y a un facteur de consommation. Il faut consommer régulièrement pour devenir alcoolique. Alors, il y a ceux qui consomment régulièrement et à qui il n'arrive rien du tout. Et il y a ceux qui vont tomber dans la dépendance. Et bien souvent, le troisième facteur, c'est un choc émotionnel. Ça va être des circonstances dans la vie qui font que émotionnellement, on va basculer d'une consommation à risque vers une dépendance extrême. Et là, ça commence. Et là, c'est l'histoire simplement qui commence, parce que on va essayer de s'en sortir et de redevenir un consommateur normal pendant de longues années. Enfin,
Moi, j'imaginerais spontanément que c'est plutôt le mal de vivre qui est la cause plutôt qu'un facteur génétique, que c'est le mal de vivre plutôt, non ? Qui vous entraîne de ce côté-là ?
Oui, il y a un mal de vivre et surtout de l'ennui. Pas d'adhésion au projet collectif, au projet d'être avec les autres. On a un monde à part, on a un monde personnel, un monde intérieur. Et l'alcool permet un petit peu de donner vie à ce monde imaginaire, un peu illusoire. Enfin, je sais pas comment dire. Quand j'étais adolescent, j'étais bien avec personne. Je n'avais pas ma place.
Ça vous dispense de vivre avec les autres d'entrer en relation, c'est un peu ça.
Oui, aussi. Oui, oui, et parce que je reviens aux alcooliques anonymes, dans les groupes, moi je suis arrivé dans un petit groupe, et tout d'un coup, sans alcool, je me suis retrouvé, j'ai retrouvé des fêtes. Et il y a une chose aussi que je voulais dire, parce que je suis aux alcooliques anonymes depuis assez longtemps, j'ai bu de manière dépendante, de manière maladive, de 20 à 25 ans. Donc j'ai passé 5 Noëls au commissariat, j'en ai passé 3 à l'hôpital, et puis un à l'HP. Et je ne bois plus donc depuis 76, je peux le dire aussi.
Vous avez de vraies fêtes maintenant.
Et je n'ai pas eu de problème, je n'ai jamais eu de difficultés. Je le dis tout le temps à mes amis, j'ai dit mais encore un Noël depuis, ce que je passe tranquille. Comme quoi l'alcool était au centre de mes excès. Enfin, il y avait toujours des accidents. Quand il y a beaucoup d'alcool, il y a souvent des accidents. Et voilà.
En sortir, que quand on en sort, la vie redevient belle. Je crois qu'on va y revenir tout à l'heure. Nous écoutons Jean Ferrat, La Montagne.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. mais il savait tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver.
Alain, vous avez visiblement aimé cette chanson. C'est pas seulement pour la nostalgie. Ah, le bon vieux temps à la campagne, au temps de mes grands-parents cultivateurs. Non, c'est pas ça.
Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. D'abord parce qu'il y a beaucoup de choses vraies dites dans cette chanson. Moi, je venais d'un milieu rural. Je suis arrivé dans un milieu urbain, violent, où j'étais pas préparé tout à fait, où c'était là, il fallait être capable, il faut aller vite. C'était plein de choses qui me stressaient. Et puis, en même temps, en le réécoutant, c'est vrai que ce qui a participé à mon rétablissement, c'est ce goût pour la nature. La nature nous aide, la nature est belle, et il y a une force, quelque chose qu'on peut pas expliquer. Et j'ai arrêté de boire hein, 22 septembre 76, donc c'est le début de l'automne, le début des couleurs. Voilà, merci d'avoir passé cette chanson.
Tout ça est très très sensible et sensuel, même dans le bon sens, le meilleur sens du mot. Alors Véronique, on va à une première réunion. Qu'est-ce qui s'y passe dans ces réunions?
Déjà, c'est pas simple d'aller à une première réunion. C'est pas simple de s'y résoudre. Enfin, en tout cas, la plupart d'entre nous, c'est ça, c'est s'y résoudre. C'est pousser la porte pour la première fois. Je sais que moi, en fait, on vient de le dire, hein, seul, je l'ai dit tout à l'heure, seul, j'ai pas réussi. J'ai admis que j'allais peut-être pouvoir réussir à arrêter de boire avec l'aide des autres. Donc, je suis allée dans une réunion alcoolique anonyme. Là, j'y suis arrivée abstinente. J'avais choisi de partir en cure avant, donc d'avoir passé 3 semaines dans un milieu médical qui m'a beaucoup aidée à surmonter les difficultés de l'abstinence des premiers jours.
Pourquoi en réunion alors que déjà vous aviez commencé d'arrêter?
Eh bien, parce que moi j'avais déjà fait l'expérience que tenir sans alcool seul dans son coin, j'avais déjà expérimenté, je m'étais plantée, donc j'allais pas recommencer une deuxième fois. J'avais senti que c'était ma dernière chance. J'approchais les 40 ans. C'était aujourd'hui où c'était. Je le ressentais comme tel, où c'était rien, où j'allais mourir. Donc j'ai tout mis J'ai tout mis en jeu. J'ai mis les médecins en jeu avant. Après, ils m'ont dit, si, dans les milieux où on vous aide, dans les milieux où on fait une cure, les médecins préconisent de ne pas rester seul. Donc, moi, j'avais choisi d'aller en réunion alcoolique anonyme. Je les avais déjà rencontrés. Et j'y allais en me disant, là-bas, je vais peut-être rencontrer des gens qui m'aideront à pas reboire. En fait, j'ai rencontré des gens et je me suis résolue à faire partie d'eux, à aller régulièrement les revoir. Ce qui n'était pas simple chez moi, parce que faire partie d'un club de gens, j'étais bien au-dessus de tout ça. Moi, j'étais quelqu'un qui était un peu pas anarchiste, mais j'étais au-dessus. Je voulais surtout pas faire partie d'un mouvement, ouais. Tout ce qui est collectif. Ouais. Donc, c'était éminemment difficile pour moi. Mais bon, j'ai bien voulu jouer le jeu. Et là, j'ai trouvé en réunion. Des gens qui étaient comme moi, tout simplement, qui avaient eu les mêmes a priori, je dirais. Et j'ai pu échanger, j'ai pu poser mon sac, j'ai pu, quand on m'a donné la parole, dire ce que j'avais sur le cœur, parler de mes peurs de la journée, parler de mes angoisses. Ensuite, j'ai pu dire, là, je bois pas, mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Comment je me rétablis dans ma vie au quotidien, et ça j'ai pu en parler en réunion, et j'ai trouvé des gens qui ont su me parler de leur propre parcours et qui ont su me recommander des manières de fonctionner.
Alain, alors comment ça se passe donc ces réunions?
Ben, les réunions, c'est d'abord la chaleur humaine. Déjà, c'était quelque chose d'exemplaire, parce que moi, je suis arrivé, j'étais quand même quelqu'un qui avait vécu, qui était en rupture familiale, et là, j'ai été accueilli.
Aller en réunion alors qu'on sort de sa bulle.
Oui, oui. Et tout d'un coup, on m'a appelé par mon prénom, on m'a invité à revenir, on m'a offert du café, enfin... Des règles, et j'étais surpris qu'à la deuxième réunion, j'ai eu envie de bien m'habiller, j'ai attendu ce moment-là.
Un rendez-vous.
On sent que c'est, qu'il s'y passe quelque chose, il y a des gros enjeux, des gros enjeux parce que moi, je voulais pas revivre. Je ne savais pas ce que je voulais vivre, mais je voulais pas revivre toute ma souffrance. Ça, c'est et à n'importe quel prix, j'étais prêt à respecter et à écouter les gens. Tout simplement pour ne pas revivre.
Cette espèce de force à l'intérieur de soi, oui. Je dirais. Il y a une image qui me vient souvent. Dans chaque être humain, dans chacun de nous, nous sommes dans notre pâte humaine, il y a une espèce de levain qui est prêt. Et tout d'un coup, le levain, voilà. Et la réunion permet de rencontrer les autres, de mélanger nos espoirs.
Oui, puis je pense que quand même dans les groupes d'alcooliques anonymes, il y a des femmes et des hommes qui sont attentifs à cette souffrance à vif. Parce que après les 24 heures d'abstinence, on commence à reprendre confiance. Mais au début, on est à vif, on est à cran, on croit qu'on est jugé, on a tous nos travers psychologiques qui sont là. Et les A qui ont un peu d'abstinence, ben ils nous rassurent, ils nous invitent à la prudence, ils nous mettent en garde. Enfin, c'est une vraie école de vie quand même.
Véronique, il nous reste une petite minute là. Comment circule la parole dans les réunions ?
Eh bien, les réunions en alcoolique anonyme, elles sont toutes établies sur le même schéma. Elles durent une heure et demie, et il y a quelqu'un, un membre, l'un d'entre nous, qui décide le soir même, ce jour-là, d'animer une réunion, de lancer un sujet, d'en parler quelque peu, et ensuite de passer la parole à chacun. Donc on apprend déjà en réunion à écouter les autres, et à ne prendre la parole que quand on nous la donne. Et là, on a pris le temps de s'imprégner de ce que les autres disaient sur un sujet. Alors ces sujets, ça peut être divers et variés. Ça peut être les peurs, ça peut être l'angoisse, ça peut être le rétablissement avec l'entourage. Et chacun de nous dit ce qu'il a envie de, ce qu'il vit à ce moment-là sur ce sujet-là.
On se nourrit de la parole les uns des autres, voilà. C'était donc notre deuxième émission alcoolique anonyme En sortir ensemble. Bernard nous dira à l'antenne quand sera la prochaine émission. Et Bernard, merci Bernard Vauquelin pour la technique. Merci Alain, merci Véronique.
Merci Henri, à très bientôt. Henri.
À une prochaine émission. Pour contacter les alcooliques anonymes, allez sur le site internet www.alcoolique-anonyme.fr. Les deux mots suffiraient à mon avis. et le téléphone accessible 24 heures sur 24, 0820 32 68 83, 0820 32 68 83.